Et Bernard Fortin est arrivé.
Parlant de terroir.
Ben oui. Comment vas-tu?
Ça va super bien. Vraiment.
Bernard, évidemment, avant de parler d'un souper d'adieu, j'ai pas le choix de te parler du site où on est, parce que c'est un site que tu connais, c'est le site du théâtre du Chenin du Moine,
l'arrière
où tu as joué beaucoup, où tu as fait de la mise en scène, où ta fille Virginie a fait ses débuts sur scène aussi.
Ouais.
Ça te fait quoi de voir qu'il n'y a plus rien sur le terrain?
Hey, ça, c'est une question difficile, là. Parce que c'est la première fois que je voyais le lieu.
Ouais.
J'ai fait tout le chemin de Boucherville.
Le chemin que tu prenais
tout le temps, les mêmes endroits que je voyais au passage, le bord du fleuve. Et j'avais une appréhension en arrivant. Je fais, oh boy, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Qu'est-ce que ça va me faire? Et c'est un vide. C'est ce qu'on voit. Il n'y a plus rien. Mais moi, tous les souvenirs que j'ai, reconstruit le théâtre, là, moi, virtuellement dans ma tête, je revois le théâtre, je revois la salle, je revois le stationnement plein, je revois la gang, je revois les Bergerons, je revois Paul derrière le bar au guichet, la billetterie, les filles, la gang, les shows qu'on a montés. Et je te dirais que la première fois que j'ai fait une mise en scène officielle au théâtre d'été, en comédie, c'est ici, à Sainte-Anne-de-Sorel.
Oh oui, okay.
C'est Rénal Bergeron qui m'a appelé et qui m'a dit « Hey, reviendrais-tu jouer? » J'avais joué en 92, moi, Sous-sol à Louis, qui avait fait un vraiment gros hit. Puis c'était les grosses années du théâtre du Chenal du Moine. Rénal s'y est à l'écoute, ou si les gars sont à l'écoute, ou le public qui a connu ce théâtre-là, c'était la folie furieuse. Et ça a continué d'année en année. Le monde était là, était fidèle. Mais la première chance que j'ai eue comme metteur en scène officiel, j'avais fait d'autres mises en scène, du coaching d'acteurs puis des affaires plus jeunes. Mais là, c'est là que ça a parti. Puis là, je suis rendu à peu près à 17-18 shows depuis mes premiers pas comme metteur en scène ici dans le théâtre.
Est-ce que c'était un souhait de faire ça quand Rénal t'a appelé? Est-ce que tu voulais faire de la mise en scène? T'étais rendu là dans ta carrière?
Oui, je m'en allais là, puis j'en faisais de toute façon comme acteur. Tu sais, quand tu t'es sur scène, tu t'aimes placer tes affaires à ta façon.
Oui, mais il y a quand même quelqu'un au-dessus de toi
qui te
ramène si jamais tu vas trop loin.
Oui, il y a ça, mais tu discutes avec lui, puis tu bâtis, puis alors, comment on pourrait lui bouger, puis comment on pourrait déterminer ce personnage-là, puis lui donner une couleur, puis le texte, puis l'intelligence du texte, etc. Comme acteur, comme metteur en scène, on est tous là. Sauf que le metteur en scène, il joue tous les instruments, puis les acteurs, eux, jouent leurs propres instruments comme... avec leur petit orchestre, tu sais. Et là, ben oui, je m'en allais là carrément, puis je te dirais très honnêtement, d'emblée, puis en ayant cette émotion-là, où est-ce que je suis le mieux dans mon métier actuellement, c'est quand j'entre dans une salle, quand le show il a été répété en salle de répétition, et on entre dans la salle, chez nous, dans notre décor, avec notre gang qui vont travailler tout l'été avec nous autres, 3 mois, 4 mois parfois. Là, je suis très, très bien. C'est là où je suis le mieux dans mon métier. Metteur en scène, entrer en salle, la pression de tout ce qui rentre, la technique, puis bon, l'énervement, ça va-tu marcher? Le public va-tu aimer ça? Ça, là, c'est des moments extraordinaires de danger contrôlé de métier qui sont passionnants. Puis c'est des rencontres, puis c'est... Surtout ici, à Sainte-Anne, on recommençait d'année en année. Moi, j'ai fait plusieurs années. Alors, je savais à quoi m'attendre, puis je connaissais le feeling, puis la pression drénale, puis que ce soit drôle, puis qu'il y ait du monde, puis qu'on aille un bon show, puis qu'on se renouvelle, puis qu'on soit sa coche. Et c'est ça que je ressens encore, vraiment, là, actuellement. C'est puissant.
Est-ce que le défi du metteur en scène, c'est de le laisser aller, le show, à un moment donné? Parce qu'une fois qu'on entre en salle et que les représentations commencent, bien sûr, tu vas faire du fine-tuning par la suite, mais reste que c'est les acteurs, ça devient leur show. Et toi, tu es dans la salle ou même pas là, bien souvent. Et là, tu n'as plus de contrôle là-dessus. Là. Tu laisses aller.
La différence avec la musique, mettons, c'est que le chef d'orchestre ou le compositeur principal ou le gars qui a créé la musique, quand il joue sur scène, il est avec la troupe.
Oui, oui, c'est ça.
C'est l'inspiration première. Et il y a des partitions à jouer.
Oui.
OK? Et si le musicien principal, compositeur, chef d'orchestre quitte, mettons, et se fait remplacer, ils vont jouer la même partition tout le temps. Ils ne se mettront pas à aller... Moi, je vois le théâtre un peu comme ça. Le metteur en scène recommande des choses, place des choses, exige des choses, propose sa vision. Après ça, quand il quitte, oh, j'ose espérer, puis c'est tout le temps le cas, sauf exception parfois... Quand la pièce est faible, mettons qu'on a besoin de number, puis il faut crinquer des affaires, puis réécrire pendant l'été, oui, le metteur en scène laisse aller. Mais une partition est une partition. Une fois qu'elle est placée, moi, ce que j'aime, c'est que on reproduise avec finesse, avec professionnalisme et ce qu'on a placé ensemble. Pas pour le metteur en scène, mais pour les acteurs, pour le public oui, et tout ça, puis qu'on aille un spectacle qui se tienne. Quand il se tient, ben on le reproduit, c'est tout, puis on s'amuse avec, puis on le jazz, puis ton personnage. Mais je suis un petit peu pas soupe au lait là-dessus, mais j'aime pas qu'on parte dans toutes sortes de directions quand on a travaillé pendant 3 mois de temps
sur une direction.
Comprends-tu? Et je compare toujours avec une partition musicale.
Oui, t'as raison.
Je disais, Mozart, tu peux pas le jouer de 1000 façons différentes, puis te mettre à faire des fioritures qui sont pas écrites.
Non.
Mais tu peux faire des points d'orgue. Oh, tu peux jouer avec la rythmique. Oh, tu peux jouer avec la couleur de tes mélodies parce que tu es un interprète différent.
Oui, oui, c'est ça.
Comprends-tu? C'est là que j'aime aller, moi, comme metteur en scène et comme acteur aussi. Parce que si je me fais diriger, j'aime ça que si Normand Chouinard ou si René Richard Cyr ou Yves Desgagnés revient après 15 représentations, je veux...
Qu'ils soient contents.
Qu'ils soient contents, qu'ils disent « Oh, on est dans la même ligne, on est à la même place, mais... » Oh, ça s'est bonifié, puis Bernie a trouvé des affaires, Martin a fait d'autres, Martine a fait quelque chose d'extraordinaire avec son monologue, etc.
Mais tu as travaillé avec plein de metteurs en scène. Est-ce que quand on devient metteur en scène, on sait ce qu'on veut être et ne pas être? Parce que j'imagine, il y a des metteurs en scène avec qui ça n'a pas marché, avec qui on s'est moins bien entendu, ou méthodes de travail qui collent moins à notre méthode de travail.
J'ai une règle, moi, c'est faire ses devoirs. Si le metteur en scène a fait ses devoirs, puis si je comprends où est-ce qu'il s'en va, puis moi, je suis pas d'accord avec, mais d'emblée, dans l'intelligence du texte, ou quand tu as compris la pièce, la situation, s'il a fait ses devoirs, go! S'il n'a pas fait ses devoirs, là, je vais travailler dans coulisses pour m'arranger pour que ça se tienne, tu comprends? Mais c'est excessivement rare. Nos metteurs en scène au Québec, en comédie, drame, théâtre d'institution, théâtre de producteurs privés, théâtre public, sont tous très talentueux à l'heure où on est. Puis c'est une grande tâche que... c'est de prendre un show au complet puis de l'amener à bon port, puis je pense qu'il y a beaucoup de talent. Mais j'ai rencontré du monde qui n'avait pas fait leur devoir ou qui n'avait pas le temps ou qui n'était pas intéressé ou qui avait d'autres intérêts pendant le travail. J'en dirai pas plus. Il y a eu une expérience ici à Sorel particulière.
Okay.
Un acteur, Dieu est son âme, un metteur en scène qui, tout d'un coup, il n'était plus présent. On ne sait pas pourquoi. Ça, j'aime pas ça. Mais un bon metteur, n'importe qui, un Chouinard, tu travailles avec Chouinard, Robitaille aussi, qui est formidable. René Richard Cyr, je reviens à René Richard Cyr, qui pour moi, et je ne sais pas que je le copie, mais j'aime ses méthodes, j'aime sa façon de faire. Il donne du lousse aux acteurs, mais il ramène à l'intelligence du texte, je me répète, à la compréhension primaire de l'intention de l'auteur. On est là, hein? On ne réinvente pas rien, il y a des mots et tout ça.
Ouais.
Puis il le fait de façon colorée, il nous parodie quand il nous donne nos notes. Là.
Okay.
On fait des enchaînements, puis là, il en rajoute un peu. Quand on est un peu gros ou trop fort, ou on souligne trop les affaires, René Richard, il nous le fait formidablement. Et on a l'air d'un ridicule complet, et on a compris la note, puis on corrige après.
C'est d'ailleurs à cette émission que je t'ai reçu avec tes filles, déjà, par le passé, alors
oui,
que
monsieur.
Tu faisais de la musique
sous
le nom de Witch is Witch.
Oui. Et puis tu étais un bon fan.
J'adore ce disque-là, moi j'ai trippé là-dessus.
Et tu sais, on se connaissait déjà, mais je t'ai découvert cette espèce de curiosité pour la nouvelle musique.
Oh, oui. Ah, j'ai vraiment aimé ça.
Et c'était vraiment bien ce qu'ils ont fait. Et puis on essaye de faire, pas renaître, mais de ressortir un show, d'aller chercher Virginie, parce que Virginie est assez occupée.
Ouais, puis Corinne aussi. Elle a un
Corinne
restaurant.
Beaucoup. Et sur toutes sortes de plans. Mais d'essayer d'y rejoindre les deux puis faire une espèce de spectacle hommage. Ce serait drôle de faire un spectacle
hommage à une carrière.
Il n'y avait pas eu une carrière folle.
Mais il y avait eu un gros lancement. J'étais là, à ce lancement-là.
Absolument.
Au même endroit où on enregistre Belle et Bomme. Là.
Oui,
je cherche le nom
de ce medley.
Oui.
Ouais,
et il y avait plein de tes amis acteurs qui étaient là pour cet événement-là, qui étaient venus encourager parce qu'ils les ont vus grandir, tes filles.
Tout à fait.
Et ton fils aussi.
Oui, puis ils ont vu ça venir, tu comprends? Ils les ont entendus chanter ensemble chez nous, puis ils savaient, puis bon, ils ont vu Virginie plus jeune, puis Corinne, c'est l'espèce de potentiel. Alors, ça, c'est des beaux moments de père qui voient... qui voit le talent des filles éclore, puis comment je te dirais, se déployer de cette façon-là, parce que c'était original, c'est du rock magique qu'il appelait, je sais pas.
Ouais.
Ouais, rock magique.
Cet été, tu travailles avec trois Formule 1 de la comédie.
Ça, c'est
t'es chanceux quand même. Marcel Leboeuf, Mario Jean et Anne Cazabonne dans la pièce Un souper d'adieu.
Ouais,
pièce
canadien,
française.
Canadien, je cherche un premier trio.
Ouais, là, tu l'as ton trio. Là. Et pièce écrite par des Français,
oui.
La même gang qui avait fait Le Prénom,
oui.
Qui a été adapté au cinéma, entre autres.
Oui.
Et ça, et ça vient d'un phénomène qui existe, semblerait.
Ben,
le souper d'adieu.
Tous ces phénomènes-là, c'est très français, hein? Dîner de cons. Les Français aiment bien se foutre de la gueule de certains de leurs amis, puis sans leur dire, tu comprends, on t'invite dans un 5 à 7, et puis on te présente à d'autres copains pour montrer à quel point t'es coloré, t'es
ouais.
fou, ou t'es très intelligent, ou pas, ou je sais pas quoi. C'est très européen. Est-ce que c'est québécois aussi, sûrement? C'est dans le comportement humain,
ouais,
ça.
Ouais.
De bien vouloir se moquer. Des fois, c'est juste un clin d'œil. Gardons s'il est drôle. Gardons s'il a un drôle d'accent. Gardons s'il il pue des pieds ou je ne sais pas quoi. Mais dans le souper d'adieu, comme Le Prénom, d'ailleurs, c'est, les auteurs trouvent toujours un élément qui fait qu'on va être surpris complètement. Il va se passer quelque chose de surprenant pendant une soirée. Le Prénom, c'est... on se rappelle, c'est un gars qui, pendant la soirée, dit à ses chums, il dit, on va avoir un petit garçon, ma femme et moi. Ah oui, comment vous voulez l'appeler? Adolphe. Et là, ça part de là. Adolphe, tu vas pas appeler ton fils Adolphe, blablabla.
Oui.
Le souper d'adieu que je montre avec les Formule 1, ce trio formidable, c'est un peu le même principe. Il prépare un souper pour se débarrasser de certains amis. Et le premier souper, c'est avec Marcel Leboeuf, qui joue Antoine, et sa femme qui ne se présente pas parce qu'elle a du théâtre, elle a une pièce de 7 heures de temps. Elle aime le théâtre. Et il se présente seul. Donc, le souper qui est prévu pour...
mettre dehors un couple d'amis, là, c'est un peu...
Oh, c'est un petit peu ouais. shaky, comme on dit. C'est pas, ça, le scénario n'est pas le même. Et le grand revirement là-dedans, c'est que le fameux invité se rend compte... d'une façon que vous allez
voir. Il sait que ça existe.
Il sait que ça existe. Il sait que ça existe. Et pendant le souper, il allume, il fait « Hey, vous êtes en train de me faire un souper d'adieu. » Et la pièce vient, bam, complètement. Puis là, on se parle dans le casque. Puis là, on se dit vraies affaires. Puis là, l'amitié est décortiquée. Puis comment ça que tu m'invites? Puis comment ça depuis 30 ans? Puis de comment ça si? Puis là, t'as-tu fait semblant de m'aimer? Non, non, non. Et là, le couple essaie de se dépêtrer là-dedans. L'alcool, le bon vin dedans, parce qu'ils servent le meilleur vin du monde, le meilleur repas. Ils mettent de la musique extraordinaire.
Oui, c'est l'ultime party.
C'est l'ultime. C'est un peu comme son enterrement, sans qu'il sache. C'est un peu, tu sais, quand un enterrement,
oh,
on fait, on va sortir.
Le gros buffet.
Le gros buffet. Ah, il aimait manger de la gazpacho. Il aimait
tenta, puis on sort tout ça.
On sort tout ça. Là, alors, c'est vraiment, c'est finement écrit et on se reconnaît parce que là, on fait le ménage de nos amitiés, pas ça. On va être assis, vous allez être assis dans la salle. Enfin, qui dans ma vie mériterait ça quelque part? Ne serait-ce que juste que je ne le revois plus ou tranquillement, pas vite, je le revois de moins en moins
ouais.
parce que c'est répétitif. Il m'énerve, finalement. On radote toujours les mêmes affaires autour de la table. Sa femme est extraordinaire, mais lui, il est chiant. L'autre couple, la femme, on peut pas l'endurer. En tout cas, bref, tu comprends? On a tous vécu ces situations-là. C'est ça que vous allez voir sur scène.
Mais en répète, même s'il y a la rigueur, même s'il y a le travail, ça a dû être drôle, pas à peu près.
Drôle.
Parce que Anne est très drôle. Marcel, de la tournée, de l'expérience, des anecdotes, il y en a une tonne. Mario aussi. Mario, de la scène en équipe, elle n'a pas fait tant que ça. Généralement, il est tout seul sur scène, Mario.
Mario, il a fait, ça fait pas...
Je vous écoute.
Deuxième, oui, je vous écoute, que j'ai monté il y a 2 ans à Marjolaine. Il était extraordinaire. Il était un trooper, un gars de théâtre. Nous autres, comme si on veut faire de l'humour, les comédiens, on se trouve qu'on est imposteurs parce qu'on n'a pas notre
ouais.
place dans le monde de l'humour. Eux autres, c'est un peu à l'inverse, pareil. Les comédiens, les humoristes,
ouais.
acteurs, parce que souvent,
oh,
sont acteurs aussi,
oui.
qui viennent au théâtre, sont rares. Ou en tout cas, on va les voir de plus en plus, j'ose
espérer. Deux cet été, en tout cas.
Il y a deux cet été.
Puis sont avec Monarque, les deux.
Avec les deux mêmes producteurs. Mais Mario a sa place là, et il apprend. Puis, tu sais, c'est pas la même affaire. Là. Après les enchaînements, on se donne des notes, on se parle entre nous, on se stackine si on a manqué une réplique et tout. Quand t'es tout seul sur scène, c'est toi qui as le contrôle, hein, sur tous tes personnages et en humour. Mais quand t'es en théâtre, là, oh, il y a deux autres acteurs. Il y a un metteur en scène, il y a le producteur qui vient voir, il y a le directeur artistique, André Robitaille, qui vient voir notre show, qui nous donne des commentaires, c'est sa job. Alors, oh là, c'est un autre game pour lui. Il est formidable. Il est drôle. Tu parlais d'anecdotes. C'est-à-dire, on te répète, il y a un tiers anecdote puis d'histoire de Marcel à tous les jours ou de Mario qui nous raconte une affaire
épouvantable.
Puis Anne Casabonne qui est en train d'écrire un recueil. Et moi, tu peux t'imaginer, ma moulin à parole, j'ai pas arrêté depuis que je suis arrivé. C'est sans fin. On apprend à se connaître, on a beaucoup de fun, on crée une belle synergie. Ça paraît sur scène. Vous allez voir, la pièce est efficace. Les comédiens sont allumés, sont prêts même. Il faut pas que je dise ça. Ça peut porter malheur, mais on est à 4-5 jours de la première, puis le public, pour moi, le beau acteur, pourrait rentrer là.
OK.
On pourrait commencer là, mais on commence juste officiellement la première mercredi prochain.
C'est comment pour toi, on parlait de ça tout à l'heure, c'est comment pour toi une première de théâtre quand tu es assis dans la salle parce que tu la joues pas, cette pièce-là? Il n'y a pas cette énergie-là en coulisses, l'équipe ensemble, toi tu es dans la salle.
Ouais. Hein? Moi, OK, je vais essayer de rester modeste là-dedans. On m'a dit, mettons que je parle techniquement, OK? Un chef d'orchestre que je choisis, je reviens à la comparaison musique parce que j'ai étudié en musique. Et je travaille comme un musicien, moi. J'ai une mesure à la fois, puis je lis partition, puis je comprends la musique. Bon. C'était quoi ta question?
Je disais, c'était comment dans la salle?
OK. Non, ce qui arrive, c'est que je sais à peu près à 75% où ça va répondre. Et où est-ce que ça va rire, je suis à peu près convaincu, où ça va
attends,
bien
c'est quasiment
réagir.
Pire, ça? Parce que si ça ne réagit pas quand tu veux...
Ça va réagir, c'est écrit comme ça, okay. Puis on le montre comme ça, puis Marcel me le prouve depuis un mois et demi, puis Mario, puis Anne nous fait rire. On rentre en technique, premier enchaînement devant nos amis, on est 4, 5, 6 à regarder ça. Ça rit déjà, je fais « Hey boy, c'est des bons indicatifs ». L'autre 25%, ça appartient au public. Ça appartient « Hey, c'est-tu un bon choix de pièce? On a dit, on aime-tu les acteurs? Le Bernard, as-tu fait une pas pire job? Y a-tu du beau son? Y a-tu un beau décor? Les costumes, sont-tu le fun? Blablabla. » Ça appartient au public, puis je sais aucune idée comment ils vont réagir. J'ai aucune idée, mais 75% de la job, je sais qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et que ça va être amusant et que c'est beau aussi, le spectacle est beau. Max Autofauteux, mon scénographe, Robin Quettel-Ouimet, l'éclairagiste, c'est des jeunes fous, malades, qui font des affaires, créent des tableaux et tout. On est loin du petit décor, là,
ouais.
Dans le sous-sol,
en carton.
Là, en carton. On est, c'est beau, puis c'est beau, puis les gens vont le voir aussi. Les gens, l'éclairage va pas partir, puis ils vont faire « Oh, wow! » C'est joli, ça. Puis on va tout détruire, ça.
Oui, mais c'est ça qui arrive avec les décors de théâtre après. C'est ça qui est triste.
Ben, en fait, je te parlais aux figurés dans le sens où le décor, pour qu'il se défait, mais la soirée se défait.
Ouais, ouais.
Et ça se dépeigne, puis le maquillage coule, puis le vin refolle, puis la nourriture aussi.
T'as-tu monté un food fight?
Non, mais j'ai un running gag sur de la nourriture transformée par une accessoiriste extraordinaire,
okay,
qui me fait des affaires.
Parce que quand on s'est parlé, tu étais au début, ouais, du projet, la dernière fois qu'on,
ouais,
s'est vu, puis tu disais, il y a de la bouffe sur la scène,
bouffe, oui,
comme metteur en scène, il y a quelque chose à faire là. Je,
oui,
peux m'amuser avec
c'est
ça.
C'est clair, et je le fais. On le fait avec retenue. Inquiétez-vous pas dans la salle, vous ne recevrez
pas
de nourriture. Si vous en recevez, c'est comestible. Ouvrez la bouche. Non, mais oui, c'est certain, c'est un souper. Donc, il y a de la bouffe, il s'en passe. Il y a des jeux de nourriture, ça, c'est certain. Des jeux de vin. Puis ceux qui ont vu l'affiche est ainsi faite. C'est comme un ralenti. Hein. Il se passe une Marcel Leboeuf, il a la main dans un plat. Le plat renverse sa nappe. Et Anne Casabonne, elle swing son verre de vin sur Mario Jean. Comme au ralenti. Alors, l'image, l'affiche, c'est tout comme figé, là, tu sais, un peu l'œil de ce souper-là, que ça va pas bien. Vraiment pas bien. Mais ça va se placer grâce à l'amitié. Hein, l'amitié, c'est important, l'amitié. Vous, des amis, on a un public extraordinaire.
Oui, oui. Hey, et ce sont des amis.
On pourrait faire... On pourrait faire une représentation. Ah!
Tu vas jouer cet été au TNM.
Ouais, monsieur.
dans Laurel et Hardy, show que vous avez monté, monsieur, qui a été créé, en fait, par l'équipe...
À l'Assomption.
À l'Assomption.
Ouais.
Par l'équipe de Monarque.
Ouais.
Qui ont créé ce show-là, de Laurel et Hardy, qui n'existait pas.
Non.
Et là, de savoir que Juste pour rire est intéressé, parce que c'est Juste pour rire qu'il présente.
Oui, monsieur.
Que ce sera au TNN.
Co-présente, en fait. Oui.
Est-ce qu'il y a une espèce de fierté de savoir qu'il y aura un show qui a été créé en théâtre d'été, chose qui est des fois vue d'un œil critique de la part de l'industrie ou de ceux qui lèvent le nez sur ce type de théâtre.
Merci de le
De savoir que ce théâtre-là s'en va dans un théâtre institutionnel,
oui,
dans un festival reconnu. Est-ce qu'il y a une fierté? Est-ce que c'est une espèce de pied de nez aux critiques du théâtre d'été?
J'irai pas vers le pied de nez, parce que on fait pas de pied de nez dans ce métier-là, publiquement.
Non, c'est ça.
Non,
mais c'est une fierté.
C'est une fierté. Le mot fierté, c'est une reconnaissance du travail qui a été fait. Parce que, je vais faire la chronologie, c'est un projet de longue haleine d'André, Mario, ils tripaient sur Laurel et Hardy, ça fait longtemps. Ils ont fait écrire ce show-là. On a joué, comme je t'ai dit, à l'Assomption l'été dernier. La première mouture d'une création autour de Laurel et Hardy qui a très bien fonctionné avec le public et tout ça. Il y a eu quand même, soyons honnêtes, des petites critiques sur le fait « Ah, mon Dieu, c'est un documentaire, un docu-pic, c'est comique, pas comique, il y a du drame. » C'était dur à identifier le type de show qu'on avait. Il y avait des petites carences sur le plan de, je dirais, l'enchaînement des tableaux proposés par les auteurs. Et on a fait du ménage au cours de l'été. Et entre l'été puis la tournée, parce qu'il y a une tournée...
Il y a eu une tournée. Ouais.
Il y a eu une tournée. Il y aura encore une tournée. C'est pas fini. À l'automne, regardez vos journaux. Ça n'existe plus. Mais regardez-les pareil. Et là, le show a pris sa place dans les ancrages qui avaient été posés. Puis là, le show, il a son envol, les gars sont bien, le duo est à l'aise avec les numéros qui ont à défendre, et toute la troupe est formidablement servie là-dedans. On a du fun, c'est vraiment un beau show. Là, Juste pour rire, le reconnu, ils sont venus nous voir à Québec, on a fait 4 soirs à Québec, 4 soirs extraordinaires, magiques avec le public qui découvrait Laurel et Hardy, ou qui redécouvrait Laurel et Hardy, ou qui apprenait que Laurel et Hardy existait, tu sais.
Oui, parce qu'il y a une génération qui ne connaissent pas.
Absolument.
Puis moi, je les connais
même
par les cartoons.
Ma
génération les a connus par les cartoons, mais on les a pas vraiment vus.
Mais les milléniaux, les X, Y, tout ça, tu leur chantes, c'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est moi The Candle, Badin, là, c'est ça. Non, rien. Mais, assis dans la salle, pendant 1h30, 1h40 de temps, ils sortent de là, ils font oh wow, ils ont existé, oh wow, ils ont existé dans ce contexte-là, les années 20, 30, 40, où on créait le cinéma, où on créait le divertissement sur scène, sur pellicule, à la télé par après. Après ça, les dessins animés. Tout se créait à ce moment-là. Laurel et Hardy ont été centrales là-dedans. Et le TNM a fait, mais oui, on présente ça à notre public aussi qui connaissent le TNM et ceux qui vont se joindre, évidemment, au Juste pour rire, parce que c'est une salle. Ça, c'est le TNM qui nous invite, mais c'est la salle, beaucoup.
Oh.
Est-ce que le public du TNM, je reviens à la genèse de ta question, est-ce que le public du TNM sera interpellé par ce projet-là, puis dire, ah, si c'est joué au TNM, on va aller le voir. Ah, ça, c'est une réponse que je n'ai pas.
Mais le public de Juste pour rire sera là.
Ah, le public de Juste pour rire sera là. Notre public, le public qui veut voir, et le public de Laurel et Hardy.
Tout à fait.
Quelque part, hein, on va le chercher.
Ouais,
hey, puis c'est drôle, André et Mario de chez Monarque décident de monter ce projet-là. Et les Britanniques font un film. Ils n'ont entendu sûrement parler ou sont venus nous voir à l'Assomption l'été dernier. Puis on dit, on monte un
parce
film.
Parce qu'il n'y avait rien, ou presque, sur Laurel et Hardy. Et là, il y a plein d'affaires qui sortent. C'est un drôle de hasard.
Prends 649. C'est fou. Et tu fais. Et tu sais, quand on dit que souvent les idées, les flashs sont dans le cosmos, dans l'air, ça flotte quelque part. Mais t'es arrivé quelquefois dans des idées, bon, marquer des choses, puis oh, y voir apparaître sur un autre projet. Dernièrement, d'ailleurs, j'avais émis quelque chose et 6 mois après, bam, il y avait un projet qui se faisait.
Qui ressemblait.
Qui ressemblait totalement, mais C'est ça, les idées circulent, c'est ça qui est formidable. Alors, allons les chercher avant que quelqu'un les exploite.
Et là, on va te voir dans l'heure bleue, non?
Oui, je suis de passage sur l'heure bleue avec le... J'ai-tu le droit de le dire? Non, j'ai pas le droit de le dire. Parce que c'est un personnage qui arrive curieusement.
OK.
Et
qui reste ou qu'on va voir juste un petit bout?
Bien, moi, je sais qu'il reste un bout. Parce... Mais en fait, il habite ailleurs. Il habite à Sept-Îles, lui. Et il arrive dans la vie de sa fille, adoptive, sa fille, et son ex, avec qui il a beaucoup de sentiments encore. Donc, ça trouble la relation que son ex a avec un autre. Et ça trouble sa fille. Il bouge les affaires un peu. Personnage intéressant, sympathique, droit, qui sait où est-ce qu'il s'en va, puis qui démêle les choses avec grande facilité quand, dans les autres camps, c'est très complexe. Et il est intéressant, il est rassurant. Mais à savoir combien de temps je suis là, pour l'instant, 8-10 jours de tournage. qu'est-ce que ça dit au monde, je ne sais pas, mais on va le voir, je pense, la diffusion, je sais pas, au cours de l'automne. Et après ça, il revient dans un autre contexte là, que j'ai pas lu encore.
Mais tu joues beaucoup ça depuis quelque temps, l'amoureux avec, aux relations complexes. Oui, c'est Fanny, oui, Pomerang.
Oui, vieux Sugar Daddy,
oh, oui.
Tu l'as dit.
C'est plaisant, ça, d'être le Sugar Daddy. Ça veut dire le gars qui vieillit bien, quand même.
Ouais, ben j'ai hâte de jouer le grand.
T'as quand même joué le chum d'Anne-Marie Cadieux,
ouais.
Catherine-Anne Toupin.
Oui, de Catherine-Anne Toupin, oui. Le bonhomme de 50-60 qui est encore correct, là, qui a l'air... mais ça crée des beaux couples, je pense. Puis c'est très, très actuel. Hein. L'homme, la femme plus jeune qui cherche le confort d'un homme mature. Déjà établi, indépendant, pas fatigant trop, ou fatigant parce que quelqu'un commence à être vieux, puis il pète au lit, je sais pas quoi, mais ça, c'est pas dit. Mais moi, je trouve ça intéressant d'être rendu à cet âge-là et de jouer cette dynamique-là. J'ai hâte de jouer le grand-papa à Crackpot, par exemple, un petit peu fêlé, ou je sais pas, ou l'éternel ado, là, tu sais, l'homme de 62 qui est encore punk.
Qui refuse de vieillir.
Qui est encore punk. Je jouerais ou bien un chef mafioso. Je voudrais jouer Tony Accurso. Je trouve que je ressemble des photos que j'ai l'âge de jouer. Alors, s'il y a quelqu'un qui écrit une série sur la commission Charbonneau et tout ça, là, moi, j'irais bien faire une figuration en Tony Accurso.
Peut-être un tube, je ne sais pas. Je ne me souviens pas.
À suivre.
L'enveloppe n'est pas d'enveloppe. Je ne me souviens pas, Luc.
Tu l'as bien, en tout cas.
Ben là, c'est un peu le parrain aussi.
Tu disais tout à l'heure que tu aimerais ça jouer un grand-père parce que tu es un grand-père depuis peu.
Depuis 9 mois. On est-tu le 28, là?
On est le 28.
Demain, 9 mois. Que je suis grand-père, mais je suis grand-père depuis 18 mois dans mon cœur.
Oui, parce qu'il y a eu les 9 mois d'avant.
Les 9 mois d'avant qui sont extraordinaires.
Ça a changé quoi pour toi, ça, quand tu as su que tu allais être un grand-père? Parce que tu me dis déjà que tu étais prêt à ça.
Oui,
tu souhaitais ça.
J'étais prêt à être père, moi, et puis j'étais prêt, tellement prêt à être grand-père. J'ai pas mis de pression sur les enfants, mais j'attendais ça avec grande impatience. Surtout parce que je vais être grand-père jeune pour pouvoir faire des niaiseries avec,
puis profiter longtemps.
Profiter longtemps, d'abord. Et les enfants m'intéressent, même quand c'est pas les miens, les enfants m'intéressent toujours. L'enfance, les jeunes, la jeunesse m'intéresse parce que c'est d'eux qui émanent l'avenir. Il faut les écouter, il faut y voir. Alors, plus ils sont petits, plus l'avenir à venir va être grand, tu comprends, pour eux autres. Puis c'est ça que j'aime observer. Puis c'est la fierté aussi, la roue qui tourne, la boucle. Pas la boucle, mais la roue qui va tourner. Puis c'est le premier fortin. Simon
en plus, étant c'est ton fils. Moi,
oui, Simon étant le seul
garçon.
Oui, et puis le seul chez Fortin gars qui peut donner un fils à la lignée, ce qu'on appelle.
Les autres, c'est des filles?
C'est toutes des filles. Mais la lignée est aussi... Elle continue pareil chez les femmes. Même si c'est pas, ça ne vient pas de chez Fortin, il y a tout le temps le Fortin là, de toute façon. Il faut les mélanger. Bon, les Fortin puis Audet, comme j'ai mélangé Fortin et Baudet, ça fait une belle richesse, là, des amalgames.
Et toi qui fais des voix, tu dois t'amuser pas mal avec le petit.
Là, je fais pas de voix encore.
Il connaît pas les voix encore que tu fais, des cartoons, évidemment, il est trop petit.
Puis c'est sûr qu'il va les entendre puis qu'il va faire le lien, mais il va avoir des exclusivités. Parce que moi, je suis un raconteur d'histoires. J'invente des histoires. Je prends un livre et je m'en vais complètement ailleurs. Tu sais, et où j'invente des personnages donc, et que je n'aurai jamais enregistré, que je vais créer juste pour lui. Ça, c'est le fun que j'ai fait à mes enfants. Mais j'espère qu'il va écouter Fable Animaux, par contre, un produit que j'ai fait pour enfants.
OK.
Il y a très longtemps qu'on peut retrouver, mais bon, je ne veux pas vendre de disques, rien. Mais je sais fort bien qu'à 2 ans et demi, il va écouter Fable Animaux avec les fables dites par son grand-père, avec la voix des animaux, puis des poules, puis des vaches, puis des dindons, puis des scies, puis, et qui est un produit extraordinaire que j'ai fait en pensant à lui. Il y a 15 ans.
Sans savoir qu'il était là,
mais je le faisais, je dis, ah, si j'ai des petits-enfants, j'espère qu'ils vont profiter de ces textes-là. Pas tant de ce que j'ai fait comme travail, que les textes de Roxane Lapointe, qui a écrit des textes extraordinaires à la hauteur de Perrault et de La Fontaine.
Et plus tard, il entendra Ned Flanders.
Ah, il va être Ned Flanders, puis toutes les niaiseries que j'ai faites, puis La Petite Vie.
Évidemment.
Sûrement qu'ils vont écouter La Petite Vie encore. Ça fait 25 ans.
Ça joue encore en reprise, puis ça marche encore autant. Les cotes d'écoute sont bonnes encore.
Les cotes d'écoute à Radio-Can montent d'année en année les reprises. Tu fais, voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est vieux comme le monde.
Ça fait 25 ans.
On avait oublié ça, nous autres, totalement. Quand ils ont ramené ça au musée, tu as vu le musée,
oui,
je pense?
Oui, oui.
Et quand ils ramènent ça au musée, ça a comme donné une espèce de notre vie qui existait encore, des reprises. Puis là, pop, ça... Nous, on avait pas oublié ça, mais c'est on fait tellement de projets et d'affaires, mais c'est marquant plus qu'on le croyait.
Bernard, merci d'avoir été là aujourd'hui.
Ben merci de ton invitation. Je suis là pour toi, pour les auditeurs, puis aussi pour notre ancien théâtre, ce lieu-là. Je trouve ça touchant, puis particulier notre discussion. On n'aurait jamais pensé ça quand tu m'as parlé sur le balcon du théâtre, d'une des dernières productions.
Qu'un jour, on serait sur le même terrain, qu'il n'y aurait plus de théâtre.
Ouais. Qu'on parlerait de mon petit-fils, puis de ma fille Virginie, qui a fait ses premiers pas ici, puis Rénal qui m'a donné ma première chance comme metteur en scène et tout ça.
C'est un hasard, hein? Quand tu m'as dit ce sera cette date-là, je ne savais pas encore que ça allait être ici. Donc c'est vraiment un hasard.
Oui, tout à fait.
Et c'était pour te faire vivre ça peut-être, ou que tu vois ça, même si ça reste triste.
C'est dur.
Ça reste des beaux souvenirs qui te reviennent en tête, assurément.
La vie est faite comme ça, hein, de souvenirs extraordinaires et parfois de malheurs, de moments difficiles, et tout ça mis ensemble fait qu'on grandit.
On invite les gens à aller voir la mise en scène que tu fais cet été du côté
trio,
du théâtre Hector Charland.
Le Dynamic Trio.
Ouais, Marcel Leboeuf, Marie-Augent, Anne Casabonne.
Checkez bien ça.
Et au TNM, Laurel et Hardy. Ouais. Et à l'automne, dans l'heure bleue. Ouais. On va suivre ça.
Puis sinon, la suite.
Merci d'avoir été là.
Je vais faire des poèmes.
Non, tu fais de la réalisation.
OK, oui.
Merci d'avoir été là, Bernard.
Merci à toi, Luc.